comme dispositif homogène qui a dominé l'Europe, ou du moins qui a animé l'Europe des 12e, 13e et début, disons, 14e siècle. Oui, ce 15e siècle, celui de la guerre de Cent Ans ou de la fin de la guerre de Cent Ans, assiste à une véritable fragmentation de l'âme occidentale, ce qui va avoir des conséquences énormes sur sa façon de prier. Et c'est comme ça, nous l'avons déjà dit, que l'imitation s'inscrit dans ce renouveau spirituel par la vie intérieure qui s'appelle la Devotio Moderna, et les animateurs en sont les frères de la vie commune. Alors, cette époque est celle, oui, de l'approfondissement intérieur, plus que des réalisations visibles des institutions ecclésiales, parce que celles-ci sont bien malmenées. Et il faudra attendre le Concile de Trente, un siècle plus tard, pour assister à un redéploiement de l'institution ecclésiale, et dans des conditions qui, cette fois-ci, seront celles de l'Europe moderne. Dans ce contexte d'un changement d'époque, l'imitation de Jésus-Christ nous a invités d'abord à considérer que Jésus, c'est notre ami, au sens le plus riche du mot, un ami que nous accueillons dans notre cœur et que l'ensemble de la vie chrétienne est pour favoriser cette intériorisation. D'où l'importance de l'humilité, du silence, de la modestie, bref, de toutes les vertus qui marquent une position de retraite, sinon en retrait. Et en réalité, nous voyons dans l'imitation ce qui fleurira pleinement au XVIe siècle, au moment où le Concile de Trente permet le redéploiement que j'indiquais tout à l'heure. Ces fruits seront ceux de l'Espagne de Thérèse d'Avila, déjà de l'Espagne d'Ignace de Loyola et des Jésuites, et puis un peu plus tard de la France du XVIIe siècle. Il y aurait bien d'autres thèmes que nous n'aborderons pas dans nos entretiens, des thèmes qui le mériteraient pourtant, par exemple le thème de l'usage des biens de ce monde, ou encore le thème que nous avons esquissé de l'attente si ardente d'un au-delà qui promet tellement de choses dont le XVe siècle se trouve privé ici-bas. Mais pour le moment, je voudrais, comme dernier entretien sur l'imitation, m'arrêter à un thème décisif pour la suite de la spiritualité occidentale, celui du discernement des esprits. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu dans nos états d'âme? Qu'est-ce qui éventuellement vient du démon? Discernement des esprits, déjà, saint Paul, dès la première génération chrétienne, en parle, mais voilà que l'intériorisation de la vie chrétienne à laquelle nous invite l'imitation de Jésus-Christ va attacher une très grande importance sur les états d'âme, ce que l'on ressent. J'allais dire les impressions que ça fait. Alors bien sûr, tous les maîtres nous disent, écoutez, les impressions, le mieux c'est de ne pas s'en occuper. Reste que c'est très encombrant. Et que quelques dizaines d'années après l'imitation de Jésus-Christ, ce repérage de l'origine des états d'âme, des esprits qui les animent, ce repérage sera le gros de la littérature spirituelle, donc un peu plus tard. Alors je vais prendre deux chapitres qui vont nous apprendre à discerner les esprits, ou du moins l'origine des esprits qui sont au cœur de notre vie spirituelle. Nous trouvons cela dans le troisième livre de l'Imitation, intitulé De la consolation intérieure, De interna consolatione. Je l'ai déjà mentionné, mais je le rappelle, ce mot de consolation n'est pas d'abord à prendre, dans le sens moderne, je dirais, du réconfort que l'on trouve quand on est désolé, mais à prendre dans le sens qui sera